Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Vous avez peut-être choisi de passer les vacances de Noël à la montagne. Et si vous voulez skier français, c'est possible. Les marques historiques sont au sommet, vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir avec nous. Ils tricotent pour vous depuis 1938 en Bretagne. Armor Luxe est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Ils vous livrent du lundi au dimanche des produits de qualité. À la maison, c'est Nelio, c'est la solution pour avoir vos courses 7 jours sur 7 à domicile. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Soyez les bienvenus comme chaque jour sur Europe 1. On s'installe ensemble pour une heure et aujourd'hui on va chausser les skis. Vous allez voir que si vous voulez vous équiper français, il y a de quoi faire pour accueillir nos invités à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, Eric Léandri, fondateur de Quant. Bonjour Eric.
Bonjour.
Que vous soyez débutant ou skieur confirmé, vous êtes nombreux évidemment à avoir déjà goûté aux joies des sports d'hiver, mais on ne part pas dévaler les pistes sans auparavant avoir revêtu l'équipement adéquat. Bonjour Sophie Lacoste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes depuis 5 ans maintenant, si mes comptes sont bons, à la tête de Fusalp, que vous avez repris en famille d'ailleurs avec votre frère et votre belle-sœur. Fusalp, évidemment, c'est la combinaison de fuseau et d'Alpes, hein, si on résume, c'est ça ?
Tout à fait, c'est le Fuseau des Alpes. C'est une entreprise qui a été créée en 1952 à Annecy par des tailleurs qui ont voulu mettre leur savoir-faire de couture au service du sport avec beaucoup de technicité et une identité qu'ils ont créée au fur et à mesure des années en accompagnant les équipes nationales. Ils ont équipé les plus grands skieurs français.
Dès 1964 hein, d'ailleurs.
Exact, même dès 1958. Fusalp a inventé la combinaison.
Et là, c'était l'équipe olympique en 64, hein, je crois.
En 64, c'était l'équipe olympique et en 58, l'équipe de France avec Killy, les sœurs Guachel, Annie Famose, où ils ont gagné, je crois, 14 médailles sur les 17 qu'il y avait à gagner. Et c'est la première combinaison de compétition de ski qui a été à ce moment-là inventée par Fusalp. Ils sont arrivés comme une équipe un peu sortant d'un vaisseau de Star Trek. Tout le monde les a regardés très impressionnés et ils ont tout gagné. Donc c'était un beau partenariat dont Fusalp a été très fier et d'où Fusalp a tiré son identité de produits près du corps, techniques et qui accompagnent le mouvement.
Et alors c'est ça qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans cette aventure, de relancer la marque parce qu'elle existait toujours, mais on peut dire que c'était une belle endormie.
Tout à fait, elle s'était pas mal repliée sur elle-même. Nous, on est à moitié savoyard, on est skieur, on adore cet univers-là. Et on a vraiment eu une vision de ce que pouvait devenir Fusalp, de ce que pouvait être un produit Fusalp. Une marque avec beaucoup d'identité, beaucoup d'authenticité, des valeurs qui nous correspondent beaucoup, de sport, d'esprit d'équipe et qui nous, enfin voilà, ça nous, on s'est projeté dans cette marque et on a eu envie de l'accompagner, de lui redonner la place auquel elle a le droit, je crois.
Vous avez repris le logo historique.
Oui.
Vous l'avez retravaillé ?
Non, on l'a gardé tel quel.
Gardé tel quel.
Il est magnifique. Oui, oui, on l'a. Il
n'était plus
utilisé.
Parce que c'est ça, c'est l'histoire, hein, finalement.
Oui, oui, oui. C'est en fait tout notre enjeu, c'est de vraiment nous approprier l'identité de cette marque, l'identité visuelle, l'identité stylistique, mais de la mettre véritablement dans notre époque. Et je pense que c'est totalement dans l'air du temps d'avoir des produits confortables qui vous permettent de bouger, d'aller partout dans le monde, de prendre un Vélib et à la fois d'être élégant.
Elisabeth, c'est vrai que quand on parle ski, les consommateurs aime acheter français, c'est indéniable.
Mais oui, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a une particularité liée au ski, aux vêtements de sport d'hiver. Une étude avait été réalisée à l'occasion des vacances d'hiver l'année dernière. C'était un comparateur de prix européen. Ils avaient interrogé plusieurs milliers de personnes et il en ressortait que concernant les articles de sport d'hiver, quand il s'agit des jeans, des t-shirts, là, on peut aller un peu partout. Mais sur les articles de sport d'hiver, ski, chaussures, bâtons, casques, gants, les Français aiment acheter français.
Que dit notre coach, Eric Léandri ?
Le coach, il a passé 30 secondes mauvaises il y a 2 minutes parce que je croyais avoir acheté une marque européenne avec une marque plutôt italienne, mais j'ai appris que c'était des Shanghaïens qu'il avait récupéré, donc je ne le referai plus. Donc maintenant, je vais me diriger vers Fusalp de suite. Et d'ailleurs, ça vaut le coup de faire savoir tout ça parce que c'est bien pour tout le monde. Et vous faites du technique ? Est-ce que vous allez passer à du vêtement connecté ou est-ce que vous le faites déjà ?
Ah,
alors... connecté, c'est une vraie réflexion. On a un laboratoire qui s'appelle Fusalp Futur. On fait beaucoup de R&D. Nous, on dépose beaucoup de brevets, notamment pour avoir déjà de la chaleur avec des tissus les plus fins possibles. Et puis, on travaille beaucoup, en effet, sur des problématiques de tissus connectés, de vêtements connectés. C'est encore vraiment en cours. Là, ce qu'on est en train de sortir cet hiver, pour le coup, c'est des vestes chauffantes. Très légère, enfin avec une technologie vraiment nouvelle qui font qu'on a juste pile poil le petit degré qu'il nous faut supplémentaire et pas un sauna dans la veste. Et voilà, c'est tout un travail un petit peu global qu'on fait là-dessus.
Eric parlait, Sophie Lacoste, tout à l'heure de l'Asie, hein, il faisait une référence. Quand on fabrique, on est une marque française, quand on fabrique des tissus aussi techniques, on est obligé de se tourner vers l'Asie. C'est le tournant qu'a pris à un moment Fusalp. On fabriquait au Japon, en Corée. On n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça.
Alors, des tissus techniques, dans la technicité que nous, on cherche, non, il n'y a pas ailleurs qu'en Corée, en Chine, un petit peu, enfin beaucoup au Japon, et un petit peu en Suisse, mais c'est tout. Quand on a racheté Fusalp il y a 4 ans et demi, 100% de la production des matières était faite en Asie. Aujourd'hui, on a 50%, on a quand même ramené.
Vous avez rapatrié en Europe ?
On a rapatrié en Europe beaucoup de choses, 50% de la production, mais c'est vrai que pour toute une partie, tout le savoir-faire est asiatique aujourd'hui.
Parce que l'outil n'existe pas, n'existe plus en France.
Exactement, voilà. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de penser Europe dès qu'on le peut.
Vous avez, je crois, commencé à ouvrir des boutiques en nom propre. Ça, c'est aussi une étape importante hein, dans la reconquête, finalement, de Fusalp.
Extrêmement importante en termes de visibilité pour nous, pour pouvoir montrer l'intégralité des collections et faire connaître aux consommateurs, en fait, l'existence à nouveau de Fusalp.
Elisabeth,
vous dites que l'outil n'existe plus en France. Est-ce qu'on peut envisager que ça va revenir ? Est-ce que vous pouvez travailler là-dessus ?
Sur des techniques comme ça. Alors nous, on ne produit pas nous-mêmes, on n'a pas les capitaux pour ouvrir une usine demain matin.
Pour l'instant.
Voilà, pour l'instant, pourquoi pas. Ça pourrait être un sujet, bien sûr. Bien sûr, sur des sujets très techniques, je pense que ça pourrait être une vraie valeur ajoutée.
Oui, parce que vous avez déposé de nombreux brevets. Oui. C'est une entreprise qui va bien, hein, qui est en pleine croissance. Vous faisiez, je crois, 6 millions de chiffre d'affaires quand vous avez racheté.
Oui.
Vous êtes aujourd'hui à plus de 16 millions. La suite, c'est peut-être ça, essayer de s'investir davantage pour aller vers une usine qui fabrique ses propres tissus.
Ça pourrait être un sujet. Après, c'est un savoir-faire qui est quand même très spécifique. Enfin, c'est une vraie transformation d'entreprise. Pour l'instant, déjà, si on arrive à bien développer la marque, à bien l'installer en termes de distribution de manière globale, parce que vraiment, on vise, là, on a ouvert une boutique à Séoul la semaine dernière. On veut ouvrir des boutiques en Chine l'année prochaine, les États-Unis. Il y a beaucoup de sujets, déjà, en termes de distribution.
Le coach, Eric Léandri.
Et les liens avec des start-up, par exemple, j'en connais comme MyCoach et d'autres qui sont investis dans le sport, très fortement dans le ski, qui pourraient vous apporter des tas de petites choses, des tas d'idées, de la gestion de performance pour certains des athlètes que vous avez envie d'équiper, des choses comme ça.
Oui, ça,
à mon avis, il y aurait un lien immédiat à faire ensemble.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement riche. D'ailleurs, on est, nous, basés à Annecy et on travaille beaucoup avec le réseau annécien local.
Vous êtes très bien, là.
Voilà, c'est très important pour nous de justement travailler avec exactement ce type d'initiative pour donner un certain sens à cette marque. C'est pour vraiment pouvoir développer ses valeurs et que, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on comprenne bien de quoi on parle avec Fusalp.
On reste ensemble, on continue à parler de l'équipement français. Pour le ski sur Europe 1.
Europe 1.
Impossible de partir skier sans lunettes. Et s'il y a une marque emblématique, c'est Vuarnet. Là aussi, vous allez le voir, il y a du changement. À tout de suite. Un skieur, même du dimanche, le sait. Quand on s'aventure en montagne, il ne faut surtout pas oublier de protéger ses yeux. La neige est vite un ennemi pour ceux qui oublient de chausser leurs lunettes. En 1957, un champion, et oui, encore un, met son nom au service d'une marque lancée par un opticien. Ce champion, c'est Jean Vuarnet. Bonjour Lionel Giraud.
Bonjour Raphaël.
Merci.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Elisabeth Assayag est à mes côtés. Notre
Bonjour.
Coach aujourd'hui,
Bonjour.
C'est
Bonjour.
Eric Léandri, le fondateur de Quant. Vous avez repris la manufacture en 2015. Cette marque Vuarnet, elle a une vraie histoire. C'est quoi qui vous a plu ?
Le fait que cette maison soit basée sur une singularité qui est son savoir-faire. En fait, ce qui m'a intéressé dans le projet, au-delà de la marque, c'est que cette marque a eu un succès et continue à avoir du succès parce que la maison produit ses propres verres. Nous sommes en fait la seule marque de lunettes solaires à produire non seulement en France, puisque
C'est du verre minéral, hein, 100%
c'est un verre minéral.
Minéral.
Oui, ce qui fait la différence et la particularité du harnais, c'est que nos verres ne sont pas en plastique. D'aucuns appellent ça organique, mais en fait, c'est du plastique. Donc, nous fabriquons des verres minéraux qui ont des qualités de protection, de confort, qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous pouvez trouver sur le reste du marché. Et ça, c'est un choix que la marque a toujours fait, il y a 60 ans, et qu'on a reconfirmé en reprenant cette maison il y a maintenant 3 ans, en se disant que la seule issue possible au redéploiement, c'était par notre technicité, par notre technologie et par le Made in France.
Alors, vous parliez de l'histoire. Ce sont les héritiers hein, qui ont, pendant 25 ans environ, géré l'entreprise. Elle a longtemps aussi équipé les écoles de ski français. Aujourd'hui, derrière vous, il y a un fonds britannique. Pourquoi il n'y a pas de fonds français, par exemple, qui ont souhaité venir relancer l'aventure?
La société est indépendante, en fait, depuis 3 ans. Alors, bien évidemment, j'ai des partenaires financiers.
Oui.
C'est une équipe de Français. Alors, il se trouve que le patron vit à Londres, mais en fait, c'est un fonds français dont les bureaux sont basés à Londres.
Alors, Vianney, ce sont avant tout des modèles phares, voire des modèles carrément iconiques, hein, parce qu'on pense évidemment à celui de Delon dans la piscine,
mais
on pourrait en citer d'autres. C'est une marque qui a toujours su, à travers son histoire, s'attacher finalement les services de stars pour faire la promotion de ces verres.
En fait, généralement, l'histoire des marques est faite de hasard, de talent et de chance. La marque, elle est née effectivement via un opticien qui avait inventé un verre, initialement pour lui-même, parce qu'il était passionné de ski.
Donc, ici même à Paris d'ailleurs.
Oui, à Paris, rue Boissy-d'Anglas, son atelier était là. Et il a eu au bout de 3 ans la bonne idée d'offrir sa collection à l'équipe de France de ski qui partait à Squaux-Valais. Et dans cette équipe de France, il y avait Jean Vuarnet. Jean Vuarnet remporte la médaille d'or. Donc ils décident tous les deux de s'associer et de monter la marque. En fait, la marque, rapidement, elle est descendue de la montagne. Elle a été reprise par des gens à la ville. Principalement par des acteurs et des actrices. Et ce qui explique le boom assez rapide. Et pour une marque française, ce qui est toujours assez intéressant, c'est qu'elle est née, en fait, elle est franco-américaine. Aux États-Unis, les gens pensent qu'elle est quasiment américaine. Elle a toujours vécu sur ces deux pieds-là. Ce qui est rare pour une marque française, d'ailleurs, de rentrer à l'international d'entrée de jeu, dès sa naissance.
Alors, justement, on parle des marques françaises. Elisabeth, dans le classement des marques les plus vendues en France, 5 des 6 premières marques sont française,
oui,
justement.
Toujours sur les vêtements et
de ski
de montagne. Alors en numéro 1, on a Salomon, qui est la marque fétiche des Français, mais qui passe bientôt sous pavillon chinois. Donc bientôt, on ne pourra plus dire que Salomon est français. Vous avez le fabricant donc, qui est le premier choix des Français. Vous avez aussi la marque Millet, qui arrive en seconde position. Millet pour les casques, juste derrière Bollé et devant CB.
Ces marques françaises, elles ont une spécificité. Il y a un attachement particulier, vous sauriez dire ça, Lionel Giraud?
Là où vous avez raison, c'est que le ski, par nature, induit un comportement qui est très cocorico.
C'est la même chose d'ailleurs pour les équipements de montagne. Hein. On avait récemment Poma, par exemple.
Tout à fait. Mais ils sont tous français et on a un savoir-faire exceptionnel.
Mais je pense que la réponse est là. Je crois que nos différentes maisons, que ce soit sur le matériel de ski, sur les vêtements, sur les lunettes, ont un savoir-faire qu'on ne retrouve pas dans des marques à l'étranger. Enfin, la tradition alpine française, elle est assez évidente. Et je pense qu'on a des marques extrêmement fortes basées sur des technologies qui apportent quelque chose au client final. Donc, je crois que l'histoire après est assez simple.
Aujourd'hui, vous produisez ici,
oui.
À Meaux, hein, c'est ça?
À Meaux, oui.
Vous avez remis, et ça c'est important de le dire, de l'argent dans l'outil industriel?
C'est la première décision qu'on a prise il y a 3 ans. Ce n'était pas la plus simple, puisque ce n'est pas celle qui, sur le court terme, vous rapporte le plus. Mais par contre, c'est celle qui vous assure à long terme ce qui vous distingue et ce qui vous rend finalement fort.
Que dit notre coach, Éric Léandre?
Moi, plusieurs choses. C'est bien vous qui, aux US, avant la météo, il passait It's Vuarnet Day Today.
Oui, mais c'est mort.
C'est ça, c'est ça.
Oui,
ça.
Oui, la petite histoire, c'est que les présentateurs de la météo aux États-Unis, pour dire qu'une journée allait être ensoleillée, ils disaient It's Vuarnet Day Today. C'est un jour Vuarnet. Et il n'y a
tout
rien de mieux comme. Oui, tout est dit. C'était même pas de la pub, c'était. c'était spontanément que c'est devenu un claim qui est connu encore aujourd'hui aux
une
US.
Une expression
oui,
de tous les jours.
Effectivement, quand vous relancez la marque aux États-Unis avec ça comme fondamentaux, ça nous aide. C'est pour ça qu'on a réouvert une boutique d'ailleurs cet été à New York.
Et moi, comme je suis malheureusement que dans le numérique, mais je vais apprendre à m'habiller mieux et à
non,
mieux m'équiper, c'est pas le souci. Vous savez, là je vois par exemple une start-up dans le sud de la France qui augmente les branches afin de savoir si vous tombez ou si vous ne tombez pas. Il s'aperçoit en fait de ce qui se passe autour de vous sans avoir à traquer, sans mettre de caméra, sans rien. Et tout ça, c'est le genre de choses qui, sur des lunettes techniques comme vous et avec des Français, auraient un vrai sens. Est-ce que vous allez vers ce genre de choses?
Mais vous avez raison, je pense que l'innovation est assez centrale sur ce type de produit. Les gens, ils recherchent deux choses. Je crois qu'ils recherchent de la fonction et ils recherchent du style. Dans le ski, on est vraiment à la croisée de ces deux chemins-là. Donc les maisons comme les nôtres, je crois qu'elles ont pour vocation à la fois d'amener une vraie valeur ajoutée sur la fonction, ça peut être la protection, ça peut être les choses que vous évoquez, et puis aussi tout en ressemblant à quelque chose, parce que ce soit des lunettes ou des vêtements, on cherche aussi cet élément, c'est un accessoire de mode. C'est aussi le plaisir de la montagne et le plaisir du ski.
Vous avez commencé à rouvrir des boutiques, hein, vous le disiez.
Oui.
Dans les 5 ans, je crois que vous tablez sur une trentaine, c'est ça?
Oh, ça me paraît beaucoup, mais si mon fonds d'investissement m'entend, surtout qu'il vous écoute.
On ne le dit pas. On est entre nous.
Non, on a réouvert une première boutique à Paris l'année dernière. Et là, le 14 juillet dernier, parce que je trouvais ça symbolique, on a ouvert notre première boutique à New York. Donc, nous en avons deux. Le plan de marche va s'accélérer. J'espère en avoir 6 ou 7 en fin d'année prochaine.
On reste ensemble, on continue à parler de l'équipement français pour la montagne et pour le ski sur Europe 1. Vous avez peut-être connu la marque pyrénéenne Villa Campa, créée par Félix Villa Campa, des skis en bois à l'ancienne. Elle avait totalement disparu dans les années 2000, ou presque, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, elle revit en quelque sorte grâce à vous. Jacques Fauvel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Villa Campa, j'ai envie de dire nouvelle version, parce qu'ils sont inspirés de ce que faisait Félix, mais ils sont complètement différents, vos skis. On les a avec nous et vous pouvez les voir si vous nous suivez sur europe1.fr.
Voilà, donc en fait, on fait un hommage à Félix Villa Campa, qui a créé dans les années 1900 cette marque de ski pyrénéenne. Et on est reparti sur les technologies d'aujourd'hui. Un ski très moderne, mais avec un look à l'ancienne, très vintage.
Oui, vous étiez au départ réalisateur, vous avez plusieurs fois changé de vie, donc rien à voir, dites-moi, avec le milieu du ski, au départ.
Absolument rien à voir.
Alors, comment est-ce que vous tombez dedans?
Alors, pourquoi j'ai créé cette entreprise, en fait, c'est pour créer de l'emploi en milieu rural.
C'est beau, ça.
Donc, aujourd'hui, il y a ce sujet de pouvoir réindustrialiser la France.
Oui.
On a eu un ministre qui a porté le flambeau,
le redressement productif,
la marinière, ouais. Justement. Mmh. Et du coup, l'idée, elle est là. C'est que dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à traiter de domaines économiques. Et je me suis dit qu'on pouvait, à partir de la richesse béarnaise, notamment, recréer une industrie de produits manufacturés, dont le ski. Et ça existait, voilà, c'est une mécanique qui s'est enclenchée comme ça.
Oui, parce que vous avez participé, travaillé dans le développement local de la filière bois. C'est ça qui vous a donné l'idée de revenir finalement au ski en bois comme on le faisait au départ.
Voilà. Donc il y a une particularité qui est propre à ma personne. Je suis fonctionnaire territorial. Alors c'est un gros mot. Sauf que voilà, j'ai eu envie de créer une entreprise puisque je venais du privé. Je suis tombé dans le fonctionnariat par hasard, on va dire. Et donc, je fais du développement local. Je travaillais dans les Pyrénées-Atlantiques avec la filière bois. Je rencontrais des scieurs, des ébénistes. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas créer d'autres objets, des objets manufacturés en lien avec votre terroir? Et j'ai parlé des skis, des luges. Et ils m'ont dit, mais les skis, ça a existé il y a très longtemps dans les Pyrénées. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Alors, racontez-moi, en quoi le ski en bois est différent du ski qu'on connaît aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Est-ce qu'il y a une flexibilité différente, peut-être?
Voilà, alors, un vrai ski, on vous dira qu'un vrai ski est en bois.
Oui.
Y a une marque très célèbre de ski de luxe qui utilise le même bois, la même essence que celle qu'on utilise dans celui que vous tenez en main.
Alors, il y a plusieurs couches de bois, d'ailleurs. Il y a celle qu'on voit à l'extérieur et puis il y a le noyau, c'est ça?
Le noyau est en bois, est complètement en bois. Ce n'est pas un bois de remplissage. C'est un bois qui, par nature, a des propriétés mécaniques qui font qu'il va être très souple. Et nous, on apporte la technologie, donc du carbone notamment, qui est du carbone de très haute qualité, ce qui fait que les industriels ne peuvent pas, voilà, avec les volumes qu'ils produisent, introduire ce genre de matériaux dans leur ski. On vient contraindre le bois parce qu'il est trop souple. On fait l'inverse de ce qui se fait quasiment dans le ski industriel.
Vous avez mis combien de temps, dites-moi, Jacques, pour relancer ce ski en bois, faire les prototypes? 3 ans, c'est ça?
Alors voilà, j'ai commencé en 2015. J'ai répondu à un appel à projet d'aide à la création d'entreprise. J'ai présenté mon projet, voilà, c'est comme un radio-crochet. On est plusieurs à pitcher. J'ai été retenu, on était 10. Et puis au bout de la formation, on a eu 250 heures de formation à l'entrepreneuriat. Au bout des 250 heures, on repitch et on juge si le projet est viable ou pas. Et j'ai eu la chance voilà, d'être retenu. On n'était plus que 5 à la fin. Et après, j'ai suivi un cursus d'incubation. J'ai fait les protos, on a testé et on commercialise notre gamme depuis cette année. Donc les skis et tout un tas d'articles de sport.
Vous parliez des luges, voilà. Des luges notamment.
On ne fait pas de luges, on fait des surfs.
Pas encore, voilà, pas encore, ça va venir, surf, ouais. Ça va venir les luges peut-être.
C'est sans réflexion. Ouais, sans bon. Réflexion.
La matière première, le bois, il vient d'où? Deux endroits différents, je crois. Le bois des forêts alentours, en partie.
Alors, deux choses. Le noyau, en fait, est un bois européen parce qu'il a des propriétés mécaniques dont je parlais. La fibre est très fine. Donc, c'est obligé d'être un bois du Nord. Mm-hmm. Voilà, un bois
donc
qui a grandi
dans les Pyrénées, voilà. D'Europe
voilà,
du Nord.
Exactement. En revanche, c'est une essence qu'on trouve dans les Pyrénées. Voilà, mais on ne peut pas utiliser ce bois pyrénéen. Et le plaquage, en fait, c'est du bois local. Donc, on a du châtaignier. Là, vous avez du frêne olivier. On a une collection en noyer. On a du merisier. Voilà, le plaquage est local.
Avec des dimensions différentes, hein, je crois. Voilà, 3 dimensions. Elisabeth ?
Alors, ces skis sont magnifiques. Vous avez créé de l'emploi. Est-ce qu'on peut les louer ?
Alors,
On doit nécessairement les acheter pour les utiliser.
Je vais donner un scoop.
Oui,
une grande marque de resort haut de gamme en a commandé de l'eau. Et donc, ils peuvent se louer dans ces resorts.
C'est voilà, où je sais pas, dans des endroits de luxe.
Voilà. D'accord. Les Arcs et la Plagne, on les trouvera facilement.
Que dit notre coach qui admire depuis tout à l'heure votre magnifique objet? Parce qu'on peut dire que c'est un très bel objet.
Non mais d'abord, c'est un très bel objet, ça, il n'y a rien à dire. Mais j'admire surtout la combinaison de matériaux ultra techniques comme le carbone qui est là derrière. Et le carbone, c'est ultra résistant, c'est ultra léger et combiné à du bois complet. Je me demande en test vis-à-vis d'autres skis à quel point ça peut être en fait une révolution dans l'autre sens.
Alors, on ne peut pas breveter, nous, ce qu'on a inventé. On appelle ça le noyau actif, en fait. Le principe d'encapsuler le bois qui a des propriétés mécaniques propres à ce bois-là. Hein. Encore une fois, l'essence qu'on utilise, elle est particulière, elle est très dure à travailler parce que la fibre est très fine et elle est très droite. Donc, il y a beaucoup de déchets. On ne peut pas avoir un nœud. Voilà, il y a un gros travail de tri, de peser des tasseaux, etc. On assemble nos noyaux nous-mêmes, on le fait à l'atelier. Et en fait, effectivement, le carbone vient encapsuler le bois. Et cette fibre qu'on utilise, en fait, c'est une fibre qui est fabriquée dans les Pyrénées-Atlantiques, à Lac, en fait. C'est une fibre japonaise. Voilà, c'est Toré, c'est un des leaders de la fibre carbone. Donc, effectivement, on a une grosse technicité là-dessus.
C'est du super luxe. C'est du sur-mesure et du super luxe.
Et pour compléter, en fait, c'est un ski très léger. Et pour empêcher la vibration du ski à forte vitesse, on a de la fibre de lin, donc, qui n'est pas locale. Il y a une filière de lin qui est relancée dans les Pyrénées-Atlantiques, là, en ce moment, mais plus sur de l'habillement. En revanche, là, c'est de la fibre de lin normande. Donc, c'est un peu mes origines.
C'est important, vous parlez des marques, des filières qui sont relancées. Elisabeth, je crois que vous en avez trouvé d'autres, des marques françaises endormies et puis qui sont réveillées.
Oui, notamment Skydress, je ne sais pas si vous connaissez. Skydress, ça se prononce peut-être comme ça. Endormie pendant 30 ans, là aussi, la marque René, elle existe depuis les années 30. Dans les années 60, c'est une marque qui a lancé une tenue de ski, un fuseau, dans une matière extensible. Et en 2013, donc il y a 5 ans, ils ont relancé la marque. Les vêtements sont conçus et dessinés par un styliste français. Mais là aussi, c'est confectionné à partir de tissus français ou italiens. Donc, c'est pas encore complètement en France.
On reste ensemble, on continue à dévaler les pistes aujourd'hui sur Europe 1.
Restez avec nous, on parle ski français, on parle des innovations et on parle aussi des marques qui sont ici, qui sont en France et qui renaissent. À tout de suite. On parle marque française qui équipe les skieurs ici mais aussi ailleurs. Nous sommes avec Sophie Lacoste, propriétaire de Fusalp, Lionel Giraud, président de Vuarnet, Jacques Fauvel, fondateur de Villa Campa. Vous allez voir que les marques françaises savent faire quand il s'agit de dévaler les pistes et nous avons d'ores et déjà des questions pour vous, notamment celle de Guillaume qui nous appelle de Noyers dans l'Yonne. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes skieur, Guillaume.
Oui, oui.
Vous faites une semaine de ski par an au minimum, 4 week-ends par an aussi.
Oui, j'essaie. Moi, je suis tombé, je suis arrivé à la montagne, j'étais très petit et je pense que mon esprit est toujours resté là-haut. Donc, dès que je peux, même si la montagne c'est loin, on essaye de se faire des week-ends de ski entre copains ou en famille.
Alors, vous avez vu qu'on a avec nous Fusalp, Vuarnet, Villa Campa. Est-ce que ce sont des marques qui vous parlent, Guillaume ?
Je connais un tout petit peu Fusalp parce que je connais quelqu'un qui travaille chez Fusalp qui s'appelle Claudia.
Oui, on l'embrasse.
Une grande championne
exactement.
De ski. C'est une grande championne de ski, Claudia.
Et qui est très gentille. Et j'ai passé une semaine avec elle en Grèce avec la Fédération française de ski au mois de mai. C'est là où je l'ai rencontrée. Donc, on avait réussi à échanger un petit peu. Voilà. Après, donc moi, dès que je peux aller au ski, je vais au ski. J'essaye de aussi bien. J'aime autant faire du ski sur la piste que en hors piste. Voilà.
Et alors, dites-moi, Guillaume, est-ce que vous êtes attaché à l'équipement français ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez quand vous achetez ou quand vous louez des skis ?
Oui, forcément. J'essaye de privilégier le français et le local, ne serait-ce que par mon activité. Moi, j'ai des skis de marque Rossignol, voilà.
Des skis de marque Rossignol, effectivement, c'est une des marques très connues, une des marques les plus célèbres en France. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir appelés sur Europe 1. Sophie Lacoste, on sent que les gens sont attachés, y compris quand ils ont quelqu'un qu'ils connaissent personnellement. Hein. C'est aussi ça qui fait peut-être la différence ici en France.
Oui, oui, je pense qu'on a un attachement très fort à l'authenticité des marques françaises. Et c'est vrai que ce qui est très chouette pour nous, c'est que Fusalp a accompagné beaucoup de joyeux moments dans les familles dans les années 70, début 80. Et que quand on ouvre une boutique, souvent, on a des gens qui rentrent et qui disent oh, « Fusalp, vous ouvrez encore à nouveau des boutiques. Je me souviens, quand j'étais petit, j'attendais mon fuseau pour Noël. » Et ils nous racontent plein de belles histoires liées à la marque. Et c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir des belles émotions. Liés à nos marques.
C'est pareil pour Vuarnet, j'imagine, Lionel Giraud. On a tous une histoire où on connaît tous quelqu'un qui a porté une paire de Vuarnet.
C'est exactement ça. Moi-même, en ce qui me concerne, la première chose, le premier objet de valeur que je me sois offert à 18 ans, c'était une paire de Vuarnet. Donc je me souviens, c'était un peu trop cher, mais pas totalement trop cher. Et qui n'avait pas sa paire de Vuarnet à 18 ou à 20 ans il y a quelques années. Donc oui, il y a une grosse nostalgie sur ces marques-là et c'est un des ressorts effectivement pour nos clients ou pour leurs enfants aujourd'hui.
Est-ce que c'est, pour les uns comme pour les autres d'ailleurs, hein, un obstacle, le prix aujourd'hui d'une marque qu'on peut considérer comme un peu luxueuse ou est-ce qu'au contraire, c'est un argument de vente ? On entend souvent dire, pour les étrangers, la marque française, c'est souvent la marque de luxe et donc ils achètent.
Alors, je crois que nous ne sommes pas vraiment dans le luxe. On est dans le premium et nos produits ne sont pas forcément chers, ils sont coûteux. C'est des produits de belle qualité qu'on garde longtemps. Nous, on y met beaucoup, beaucoup d'énergie, d'efforts et de R&D. Et je crois que les clients le ressentent et s'achètent un produit pour se faire plaisir qui va rester dans le temps, qu'ils vont avoir beaucoup d'occasions de porter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de faire, je crois, comme Vuarnet, des produits qui soient assez polyvalents et qui puissent être portés aussi bien à la montagne qu'à la ville et qui durent tout le long de l'année.
Le coach, Éric Léandre.
Non, moi, je trouve juste extraordinaire de passer de s'acheter une paire de lunettes à 18 ans et puis se racheter une entreprise 20 ans plus tard. Mais en dehors de ça, je pense qu'ils ont tout compris. Ils sont en train de parfaitement comprendre comment avancer dans les marques et le fait de faire de la R&D, le fait de penser se connecter aux startups. Je pense qu'en Europe, on a tout pour faire avancer et en France, avec tous ces gens qui veulent du français,
ouais, tout à fait.
Bah, ils ont tout ce qu'il leur faut devant. Moi, j'avais juste un petit coup de gueule juste après. C'est pour monsieur.
Ah oui, bah, on le laisse respirer et puis on va accueillir Loïc. Comme ça, il a le temps de réfléchir à ce qu'il va vous répondre. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Flumé, en Savoie, justement. Vous êtes équipé, je crois, par la marque canadienne Avalanche. Vous êtes moniteur et directeur technique dans une école de ski.
Oui, tout à fait. Je suis directeur technique de l'ESI des CESI, donc notre syndicat, donc le syndicat international des moniteurs de ski, a choisi de faire un partenariat avec la marque Avalanche. Pour nous, ce sont des vêtements qui sont bien adaptés à notre profession, qui sont résistants, qui sont...
Vous n'avez pas à cœur, vous n'auriez pas envie d'être plutôt équipé français ?
Alors, on a déjà été équipé par Vuarnet, mais en fait, à cette époque-là, on s'équipait vraiment juste notre école de ski. Mmh. Donc maintenant qu'on a qu'on fait par notre syndicat, on est un petit peu tenu au choix de ce syndicat.
Qu'est-ce qu'on peut répondre, Lionel Giraud ?
Effectivement, dans la plupart des écoles de ski ont un syndicat qui fait des appels d'offres à différentes marques. C'est un business intéressant puisque vous avez les meilleures écoles de ski qui peuvent porter vos couleurs. C'est à la fois très prestigieux, ça vous oblige à être sur des niveaux de technicité extrêmement importants, mais c'est un business assez complexe.
Merci beaucoup Loïc de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. Je me tourne vers le coach Eric Léandre. Alors ce coup de gueule, il vient, ben, il vient pas
gueule, il est pour
c'est
lui.
Pour maintenant.
Il est pour lui.
Alors
c'est
lui, c'est Jacques Fauvel, le fondateur de Villa Campa.
Il est pour lui, on doit financer des marques comme lui. Il fait tout en fonds propres, c'est une honte. C'est une start-up, il fait même du ski connecté. Tout le monde nous parle de ramener en France des industries et de faire de la technologie française. Il en fait, ça c'est de la techno, du carbone je connais. On est en train de s'amuser en Chine à en créer pour des téléphones. C'est compliqué à fusionner, c'est très compliqué à mettre avec autre chose. C'est de la vraie techno, c'est français, c'est ici. Le fait dans les Pyrénées, il ramène tout et c'est lui en fonds propres. Non.
Vous n'êtes pas aidé du tout, Jacques.
Alors, ce jour, je ne suis pas
aidé.
Vous
êtes allé demander un petit coup de main financier ? Alors, les portes se sont ouvertes ou fermées ?
Il y a des portes qui s'ouvrent.
Oui. Lesquelles ?
Moi, je n'ai pas beaucoup de compétences. Mais
faut dire lesquelles, parce que les gens qui ouvrent la porte, c'est toujours bien les cités.
Je travaille encore à la région Nouvelle-Aquitaine et je suis suivi, donc je peux dire merci à mon président.
C'est du bon, on a fonctionnaire.
Voilà, c'est quand même du bon. Je tiens à dire que je suis passé quand même en commission déontologie à Bercy pour justement avoir ce cumul d'activités. Quand même. Voilà,
oui,
certains ne le font pas, donc moi j'y suis passé. Donc tout ça pour dire que la région, effectivement, il faut demander des aides au bon moment. C'est-à-dire mm-hmm. qu'aujourd'hui, il a fallu que j'apporte la preuve que ça fonctionnait. Et puis comme je suis malin, j'ai trouvé des fonds, notamment mon fonds d'incubation. Voilà, ça m'a permis de développer les protos. J'ai répondu à des appels à projets européens sur la R&D connectée. Voilà, je suis suivi par un accélérateur, un programme européen qui s'appelle Smarties. Donc là, on va avoir de l'aide. Je suis accompagné par le CEA Tech quand même, une TPE rurale accompagnée par le CEA Tech. C'est quand même remarquable.
Ce que je dis simplement, c'est que maintenant, il faut passer au coup d'après.
Là, on développe encore de nouveaux protos justement
pour
pouvoir
connecter. Les fonds qui vont venir te mettre de l'argent. Des Français en Angleterre qui doivent absolument venir aider ce monsieur.
Alors, je vais vous présenter
les Français.
Super sympa, merci.
Nous, on adore quand les choses se font dans le studio d'Europe
1. Et on fera une collab ensemble.
Une collab. Vous avez pensé, d'ailleurs, tiens, Fusalp, Vuarnet à des collabs, vous avez déjà travaillé ensemble, je crois.
Oui, mais nous sommes deux marques amies.
Deux marques amies.
Oui, très proches. Les équipes se connaissent bien, on parle ensemble, on se voit, et puis à tel point que les lunettes Vuarnet sont aussi commercialisées dans certaines boutiques Fusalp. Donc,
tout
vous voyez,
fait.
On est vraiment très... très
c'est
proche.
C'est un petit milieu, hein, le milieu du ski. Tout le monde se connaît.
Oui, oui, c'est sûr. Et puis, je pense que c'est important de favoriser ce réseau et de s'épauler les uns les autres. On est quand même, nous, une PME. On a besoin du soutien et des aides qu'on peut rencontrer et de l'amitié, en fait, des autres entrepreneurs.
Le mot est dit, l'amitié c'est important. Merci à tous les trois d'être
Merci.
Venus et on espère qu'on verra les skis pyrénéens sur les pentes des Alpes très bientôt. Merci à vous d'être venus
nous
parler ski aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Elle est implantée depuis toujours en Bretagne. On voyage aujourd'hui, sa spécialité le tricot et la marinière. Armor Luxe et l'entreprise qui va bien, merci. L'entreprise qui va bien, merci aujourd'hui, c'est Armor Luxe. Bonjour Jean-Guy Le Floch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Armor Luxe, c'est une maison que tous les Français connaissent hein, finalement, grâce, et je l'ai sur moi, à votre marinière. C'est vraiment, dites-moi, encore aujourd'hui, l'emblème de l'entreprise.
Oui, c'est vraiment le, voilà, c'est son image, son emblème, c'est le produit qu'on vend le plus. Et on en vend voilà, de plus en plus tous les ans, c'était quasi un miracle. C'est un très très beau produit qui et je crois aussi le symbole de la Bretagne, le symbole de la France et le symbole d'une production française.
Alors, vous dites production française, mais alors quand on regarde l'histoire, moi j'ai été très étonnée d'apprendre que c'est un Suisse en 1938 qui l'a créé, cette Armor Lux à Quimper.
Oui, c'est une drôle d'histoire. Un Suisse, un jour, décide de venir vivre en Bretagne. Il rencontre un marchand de bois qui investit dans une petite fabrique de pulls et de tricots et de sous-vêtements. Et c'est ce Suisse qui est resté à la tête de l'entreprise jusqu'en 1994.
Oui, la bonneterie est ensuite, puisqu'on peut dire que c'est une bonneterie, hein, c'est comme ça oui. que ça s'appelle, est reprise par vous. Elle a toujours fait le pari, et ça c'est aussi une manière de tirer notre chapeau ici à Europe 1, de maintenir les emplois en France, de défendre les savoir-faire. C'est vraiment votre credo.
C'est-à-dire, on a repris cette affaire avec Michel, un ami breton, aussi breton que moi. Et notre pari, ça a été de défendre l'emploi chez nous, parce que nous, les Bretons, on est assez têtus, on est tous solidaires. Et on a repris cette affaire aussi pour maintenir l'emploi, pour en créer d'autres et pour défendre les valeurs bretonnes.
Oui, et vous avez bien défendu, parce qu'au fur et à mesure, vous avez rajouté des entreprises dans l'escarcelle, hein, si j'ose dire. On va en citer peut-être quelques-unes. Bermude, par exemple.
Oui, Bermude.
Pour le sportswear.
Voilà, qui est une très belle marque de mer, de navigation. On a une petite marque à Troyes aussi qui s'appelle le Berac, on fabrique de
Guy
très
Berac,
beaux pulls,
ouais.
Des beaux pulls à Troyes. Donc on avance et on...
Ça vous permet de diversifier l'activité ?
Voilà, on a une très belle gamme de produits. Maintenant, on habille toute la famille dans à peu près tous les compartiments vestimentaires, y compris dans le chaussan. Donc voilà, on est heureux, on peut habiller tout le monde, toute la famille. Et ça marche.
Que dit notre coach Éric Léandri ?
Non, mais c'est très très spectaculaire. Moi, je suis toujours très très impressionné par le monde de tout ce qui est couture,
de l'habillement
en général, parce qu'on a réussi en France et en Europe à faire ce genre de choses, et vous allez encore plus loin, vous gardez tout en France. Donc moi, je trouve ça absolument incroyable, et c'est la preuve que ça marche. C'est la preuve qu'on peut racheter, c'est la preuve qu'on peut aller plus loin. Ma question, toujours la même, est-ce que vous avez des fonds qui vous suivent ? Est-ce qu'il y a des fonds qui s'occupent de gens comme vous qui ont décidé de garder de l'emploi en France ? Ou vous aviez déjà une fortune personnelle et c'est vous qui avez décidé tout simplement de racheter, parce que vous êtes breton.
Et têtu, donc il le floque.
Je suis breton, têtu et...
Ouais, vous avez un corps têtu aussi
ouais,
en face.
Ouais. On le fait pour s'entendre. Oui, alors en fait, on a racheté cette affaire à l'époque, ça se pratiquait beaucoup sous forme de LBO, donc c'est les banquiers qui nous ont suivis. Et aujourd'hui, on a toujours deux banquiers avec nous dans le capital, le Crédit Mutuel et la Banque Populaire. Et je les remercie au passage, et ils sont d'une fidélité rare.
Dites-moi, quand on a une marque comme la vôtre connue, reconnue, c'est le savoir-faire, le faire savoir aussi qui est important, la digitalisation, le bouche à oreille, qu'est-ce que c'est qui fonctionne le mieux quand on a Armor Lux à vendre ?
D'abord, je crois la promesse de la marque, et cette promesse, c'est l'emploi en France. Ça, c'est la promesse fondamentale.
550 salariés, c'est ça ?
Voilà, on approche les 600. Et puis, cette promesse est assortie aussi d'une qualité qui est légendaire, c'est-à-dire le consommateur, la consommatrice, quand ils achètent un vêtement de chez nous, ne sont jamais trahis par la qualité. Et c'est d'ailleurs un peu là le revers de la médaille, parce que nos vêtements durent tellement longtemps, voilà, qu'on n'en vend pas assez.
Vous habillez aussi les agents de la Poste depuis 2009, ceux de la SNCF. Ça veut dire que c'est aussi une marque de confiance que vous font ces entreprises françaises.
Oui, tout à fait. Là, on répond souvent à de gros appels d'offres. On a gagné l'appel d'offres de l'habillement de la Poste en 2003 et celui de la SNCF en 2007. On habille effectivement plusieurs centaines de milliers de personnes dans toutes ces belles entreprises françaises.
Et vous avez 60 magasins aujourd'hui environ qui portent vos couleurs, qui portent votre nom.
On a 60 belles boutiques en France aussi et qui sont aujourd'hui des vrais vecteurs de communication pour la belle marinière que vous portez.
Oui, la belle marinière ou alors le pull de Noël, même si Noël est passé aujourd'hui, on peut encore trouver le pull de Noël, vous le fabriquez tous les ans, ce pull, vous en faites un différent.
Oui, c'est un petit peu un jeu dans notre bureau d'études à Quimper. On a une vingtaine de créatrices dans ce bureau d'études. Et voilà, il y a tous les gens, il y a un petit concours. Et cette année, c'est la, une petite taupe bretonne qui a été retenue. Voilà, on lui a changé de couleur.
À quoi on voit qu'elle est bretonne, dites-moi.
Parce qu'elle a été créée en Bretagne.
Ah bon. C'est Armor Luxe et son pull de Noël que vous pouvez encore peut-être trouver dans les boutiques 60 magasins Armor Luxe. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci Raphaël.
Europe 1.
Il livre du lundi au dimanche des produits de qualité à la maison. C'est Nelio et c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Vous n'avez pas préparé votre repas de fin d'année, pas le temps de faire les courses, pas de problème, on vous apporte la solution. Elisabeth, ça s'appelle Nelio et cette entreprise vous propose de vous livrer à domicile des produits triés sur le volet.
Oui, c'est un service de livraison que l'on pourrait croire un peu comme les autres, sauf que la particularité de Nelio, c'est de ne s'intéresser qu'aux bons et qu'aux beaux produits. L'idée, c'est d'aller piocher chez les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs commerces de votre ville. Pour l'instant, ça existe à Lyon et à Paris, mais on l'espère, ça va s'étendre. Tout vous sera livré en même temps, à l'heure de votre choix, même dans l'heure si vous le souhaitez, du fromage, du pain, des pâtes, de la charcuterie, du vin, ce qui est plutôt bienvenu pour éviter le rush là, de ces fêtes de fin d'année.
Avec nous pour en parler, Claire Tolo, directrice commerciale de Nelio. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes directrice commerciale de Nelio. Comment est née l'aventure ? Parce qu'un service de livraison, ça existe déjà.
Tout à fait. Alors l'aventure est née à Lyon, il y a maintenant 2 ans et demi. Elle est née parce que donc, le fondateur, Jonathan, est fils d'un artisan primeur qui est dans les Halles Paul Bocuse, donc les Halles gastronomiques de Lyon. Et il s'est rendu compte, il a fait le constat que donc, Lyon étant la capitale de la gastronomie, il y avait donc, les artisans qui étaient situés dans les Halles Paul Bocuse étaient un peu excentrés du centre-ville de Lyon. Et donc les habitants du centre-ville de Lyon n'avaient pas forcément possibilité de se déplacer tout le temps aux Halles. Il s'est dit que ce serait intéressant d'apporter justement les Halles, les artisans des Halles directement chez ses clients qui sont dans le centre-ville. C'est né de ce constat-là. Et après, ça s'est étendu avec différents artisans dans Lyon au début. Et donc là, depuis un peu moins d'un an, on est arrivé sur Paris pour faire la même chose sur Paris.
Alors justement, comment vous les choisissez ? Parce qu'il y en a plein de commerces de bouche, notamment à Paris, des bons, des moins bons. Vous allez les goûter chacun ? Vous fiez sur les avis de votre voisin ? Vous faites comment ?
Alors, on a plusieurs méthodes pour les choisir. La première, c'est déjà, on écoute nos clients. Quand nos clients nous propose un artisan qu'ils aimeraient bien voir sur l'application, on regarde un petit peu si c'est quelque chose qui nous plaît. On fait en sorte de rentrer sur l'application. On est aussi énormément on suit énormément l'actualité des gastronomiques. On voit un petit peu qui sont les nouveaux meilleurs ouvriers de France. On s'intéresse un peu tout ce qui sort, les petites boulangeries bio, pour savoir un petit peu ce qui se fait de mieux. Et on teste énormément les produits. Et ça, c'est la partie la plus compliquée de notre métier.
Oui. C'est la plus sympa aussi.
Quand je dis plus compliquée, c'est la plus sympa. Et donc, c'est de tout goûter. Et en fait, l'idée, c'est que donc moi, c'est aussi beaucoup mon travail, c'est de sourcer. Donc, on essaie de s'approvisionner, on va voir les artisans, on les rencontre, on échange avec eux. Derrière, on achète leurs produits, on goûte ce qu'ils font. Et si ça nous plaît, eh ben, c'est sur Nelio. Tout métier de bouche confondu.
C'est absolument génial parce que tout vient à la maison. Vous avez levé 2 millions d'euros il y a quelques semaines. Comment vous vous démarquez dans un secteur qui est quand même hyper concurrentiel ?
On se démarque par la sélection qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs artisans de Lyon et de Paris. Donc, c'est vraiment des métiers de bouche qui sont exceptionnels et on se rend compte qu'il y a vraiment une clientèle pour ça. Il y a une clientèle qui... Manger, c'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des bons produits et on se démarque par la sélection qu'on fait.
Ok, mais ça, c'est pour le fromage, pour la viande. Mais par exemple, pour les fruits, pour les légumes, vous n'allez pas goûter chaque fruit, chaque légume de chaque primeur ?
Non, après, on fait une sélection. Par exemple, on sélectionne un petit primeur bio. On voit que ces produits sont qualitatifs. On voit que l'approvisionnement est quotidien. On a l'œil au final, on a l'œil et c'est là-dessus qu'on essaye au maximum de jouer et d'avoir les meilleurs produits possibles.
Le coach Eric Léandré.
Vous êtes combien maintenant dans la société ?
Alors on est une petite soixantaine dans la société.
Déjà ?
On est déjà une petite soixantaine, on a beaucoup de personnes qui sont basées à Lyon, notamment toute l'équipe technique qui est assez conséquente parce que Public c'est une application, donc il y a beaucoup de travail en amont avant de la lancer et même maintenant pour la faire fonctionner. Et donc, on a une plus petite équipe sur Paris pour développer tout ça.
Donc, ça fait déjà pas mal d'argent à dépenser. Donc, vous faites déjà du bon chiffre d'affaires ?
Oui, tout à fait. Après, okay. On ne communiquera pas encore là-dessus, tout à fait.
Je ne cherche pas ça. Moi, j'avais juste un point pour vous. Juste l'idée, j'ai compris d'où elle est venue. J'ai compris la montée. Je vois que vous venez de lever. Tout ça, c'est vraiment top. Quelle est votre idée pour vous faire connaître maintenant par le plus grand nombre? Parce que 2 millions, c'est beaucoup et c'est peu.
Il y a des bons frais de livraison quand même. Il y a des bons frais de livraison quand même.
Oui, non, d'accord. Mmh. Mais
non, il faut bien qu'ils gagnent leur vie.
On se fait livrer les meilleurs produits, on se fait livrer tout ce qui est déjà sourcé. Payer des frais de livraison là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée. Et même leur faire gagner leur vie, c'est une excellente idée. Et je trouve ça génial. Moi, je voulais savoir comment vous allez vous faire connaître. Parce que je me disais tout simplement que les meilleurs ouvriers de France, c'est aussi une fédération. C'est des gens qui sont regroupés dans toute la France. Vous pouvez les rencontrer, vous pouvez les connaître dès demain matin. Même vous en présenter, ça va pour tout. Et peut-être que eux peuvent faire le bouche à oreille et que vous pouvez accélérer leur bouche à oreille parce que eux, parfois savent mal se faire reconnaître. J'ai vraiment l'impression que vous avez une idée carrément géniale dans l'un des meilleurs pays au monde pour le faire. C'est quoi votre plan?
Alors le plan, c'est justement tous ces partenariats qu'on fait avec. Pour nous, c'est vraiment des partenariats qu'on fait avec les artisans et les meilleurs ouvriers de France. Ils parlent de nous à leurs confrères. Nous, on essaye de les démarcher et on organise notamment des événements. On a en février, qui arrive très bientôt, un événement qui est autour de la raclette où on fédère tous nos artisans fromagers. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils parlent entre eux. On crée vraiment une communauté d'artisans et de meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se fait avec grand plaisir. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et après, voilà, on a un site internet qui va sortir très prochainement. Beaucoup de référencement sur Google notamment et sur tous les moyens.
Moi, je vous l'offre.
Arrêtez. Et ben ah bah voilà, ce sera le cadeau de fin d'année d'Éric Léandre et pour Nelio. Voilà. Merci d'être venu nous
avec
présenter cette solution. Elisabeth, on se dit à demain.
À demain,
à l'année prochaine. Éric, et demain, si vous êtes au rendez-vous, nous irons au Cabaret Français.
Un beau programme. Merci Raphaël. À demain 13h sur Europe 1.